Les cours du Collège de France, Sébastien Lecommandou, chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier cours dans le cadre de cette chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de biomimétisme, biodégradabilité, et biorecyclabilité des polymères. Et je vais un petit peu revenir sur des notions sur lesquelles on avait discuté lors du premier cours et en particulier lors de la leçon générale. Donc on va en quelque sorte boucler un petit peu la boucle aujourd'hui. Donc le programme du cours est là et j'aurai le plaisir d'accueillir pour compléter ce cours deux éminents chercheurs et collègues, Christophe Chassenieu et Daniel Taton, que j'introduirai un petit peu dans la suite, qui vont vous éclairer sur des aspects plus ciblés de la science corrélée au cours que l'on va voir ensemble. J'en profite aussi pour vous annoncer le colloque, donc c'est pas fini, c'est le dernier cours, mais il y a un colloque de fin. Et le colloque de fin sera le 6 juin 2025, et j'en profite pour vous annoncer le programme et la liste de conférenciers invités. Donc ce colloque sera très international et en anglais. Et vous reconnaissez certains noms de collègues que j'ai mentionnés, dont j'ai mentionné leurs travaux, en fait, qui viendront du coup donner leur éclairage et leur propre vision de ce que j'ai pu raconter pendant ces différents cours. J'y reviendrai un petit peu à la fin. Donc pour revenir au sujet du jour, on va discuter aujourd'hui des polymères, de ces matières plastiques, et comment est-ce qu'on peut envisager leur recyclabilité ou leur biorecyclabilité. Quels sont les enjeux et quelles sont aussi les opportunités de développement futur et parce qu'on va le voir, il y a aujourd'hui des problèmes, mais quelque part il y a aussi beaucoup d'opportunités et beaucoup de façons de résoudre en fait ces problématiques. Donc ce que j'ai discuté pendant ma leçon inaugurale, j'ai commencé de façon un peu provocatrice en vous disant les polymères sont souvent assimilés au plastique et aujourd'hui quand on entend parler de plastique, on a une notion qui évoque des choses diverses chez nous. Ça peut être, pour nous, c'est une matière utile pour la société, mais aujourd'hui, et qui a été très utile pour la société, qui l'est toujours, mais aujourd'hui, en fait, polymère égale un truc dont on ne veut pas. D'accord ? C'est un truc soi-disant toxique, alors que la matière elle-même ne l'est pas, souvent pas. Et c'est quelque chose qu'on ne veut plus, et en tout cas qu'on ne souhaite plus. En tout cas, c'est l'image sociétale négative que l'on a aujourd'hui et qui est imprégnée dans la société. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ça. Donc il y a effectivement toutes ces... ce qu'on appelle ces océans de plastique, et il y a un septième océan de plastique, on voit ce genre d'images, effectivement, beaucoup, ou ce genre d'images qui sont représentées ici. Et on parle beaucoup de ces aspects-là, et c'est effectivement un aspect très négatif, il ne faut pas le négliger, des matières plastiques. Pourquoi ? Parce que pratiquement la moitié de la production de plastique se retrouve, on la jette en fait, on l'utilise de façon très, 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 très rapide, parce que la matière n'est pas chère. Donc finalement, ça revient moins cher de la jeter que de la réutiliser ou de la recycler. Alors il y a des problématiques liées à tout ça. Et en fait, tout ça, ça ne va pas s'arrêter. Même si on nous dit, effectivement, il faut moins consommer. Oui, il faut moins consommer. Et vous allez voir que c'est le cas dans certains pays, dans certaines régions du monde. Ce n'est pas le cas dans toutes les autres régions du monde. Et là, on parle d'une problématique globale. Donc si on regarde les prédictions sur les sources de l'OCDE, si on regarde les productions de polymères, eh bien, on voit qu'elles ne sont de toute façon que croissantes, on est à peu près par là, et on voit que la production va continuer à croître, de façon très importante, en particulier dans les pays autour de l'Asie et du Moyen-Orient. Si on regarde maintenant le rejet de plastique dans l'environnement, donc ça, c'est à nouveau des sources de l'OCDE, ce qu'on peut voir, c'est que dans les pays OCDE et Union européenne, on voit qu'on a une tendance plutôt à la diminution, ce qui est très bien. Par contre, si on regarde tout le reste, on voit qu'on a une tendance, en tout cas les prédictions sont toujours une tendance qui va être en augmentation. Parce que la production va être en augmentation et parce qu'à nouveau, le coût de recyclabilité est plus important que le coût de production. Donc le problème, il est réel, il est bien là. Et en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut tourner autour de ce problème et comment on peut résoudre ce problème, en fait. Et quelles sont les solutions envisagées, je dis bien les solutions envisagées, parce qu'il n'y en a pas qu'une, vous verrez. Donc l'homme utilise les polymères depuis très longtemps. Et ça, c'est des choses que j'avais aussi évoquées, dont on avait aussi parlé. Les polymères sont une matière utile depuis très très longtemps. On va retrouver les anciens méso-américains qui fabriquaient du caoutchouc. Donc ils savaient faire le caoutchouc il y a plusieurs millénaires, donc au moins 1600 ans avant notre ère. En tout cas, on a retrouvé ces traces avec ce jeu de balles qu'on trouve ici, mais aussi avec les sandales en caoutchouc réticulées. Et puis, plus ancien encore, la soie, les fils de soie utilisés entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, avec le premier fragment découvert ici qui date de 2570 avant Jésus-Christ, donc où on savait utiliser, filer ce polymère particulier que maintenant on produit à l'échelle industrielle de façon simplifiée, c'est la famille des polyamides, d'accord, qu'on a discuté, parce que ce polymère c'est principalement une protéine. Donc on a besoin de ces polymères, on a besoin de ces matières plastiques, et depuis un peu plus de 70 ans, on les produit massivement à l'échelle industrielle, mais en fait on se sent un peu dépassé par cette surproduction, cette production enfin, très importante, parce que la matière est utile. À nouveau, cette matière est utile et répond à un besoin sociétal. Alors, les solutions, parce qu'effectivement il y a plusieurs solutions, il n'y a pas qu'une solution. Les solutions, et je ne vais pas toutes les mentionner non plus, je vais tenter d'être exhaustif le plus possible, mais je ne le serai pas, je le sais. En fait, parmi les solutions qu'on peut envisager, eh bien, on va trouver une première qui va être de réduire la production ou la consommation, enfin, associée à la consommation. Donc ça, c'est effectivement important autant qu'on puisse le faire. On va essayer, bien sûr, de recycler, de réutiliser la matière. Et on n'a pas trop le choix, en fait, il faut le faire. On peut revaloriser. Alors c'est ce qu'on appelle le upcycling en anglais ou le surcyclage en français, ce qui est pas très, enfin ce qui est assez peu élégant, je trouve. Mais typiquement ici, c'est l'idée de réutiliser cette matière pour en faire autre chose, éventuellement autre chose avec une plus grande valeur ajoutée. On peut aussi quelque part avoir une réflexion avec une approche, on va dire, d'utiliser des matières d'origine biosourcée. Vous verrez, je vous en parlerai un petit peu, il y a aussi certaines limitations. Et puis il y a une approche de bio-inspiration sur laquelle on peut revenir et sur laquelle je vais insister davantage aujourd'hui, parce que, à nouveau, la nature crée des polymères, utilise des polymères, recycle des polymères depuis très longtemps, et le fait de façon, avec un équilibre et un respect, on va dire, de la nature, bien sûr, au plus haut niveau, hein, puisque c'est quelque part, cette matière sert finalement de produit pour générer d'autres matières. Donc typiquement, c'est du recyclage ou du upcycling que fait la nature. Alors, si on se projette un petit peu plus, voilà, un petit peu plus loin. Donc, si on regarde le recyclage des plastiques, donc ça à nouveau, c'est un transparent issu de ce site ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de circularité, c'est-à-dire de produire et puis de réutiliser. Et il y a différentes approches pour le faire. Donc, on peut voir ça de différentes façons. Donc, il faut d'abord éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, ça, c'est ce que j'évoquais. Il y a le multiple packaging. Qui n'est pas toujours très utile. On peut bien sûr réduire la quantité de plastique que l'on va avoir. Donc ça, c'est de la réduction. Donc il y a différentes façons de réduire de réduire la quantité de plastique utilisable. On peut substituer effectivement les matières autant que possible. Donc là, on revient à des emballages plutôt en papier ou en carton, alors qu'on les a finalement. Ils existaient déjà avant. Finalement, on les a substitués par des matières plastiques. On peut effectivement recycler. Ça nécessite effectivement d'augmenter la capacité de collection pour recycler. Parmi les recyclages, il y a le recyclage mécanique qui est très utilisé aujourd'hui et qui est très bien standardisé, mais qu'il faut amplifier, enfin qui peut être amplifié. Et puis il y a le recyclage chimique, dont on parlera, qui est un petit peu plus récent, même si ce n'est pas si récent que ça, mais en tout cas dans une perspective de développement économique. Et ça, Daniel donnera des perspectives plus précises sur ce sujet dans le cours en complément, dans l'exposé en complément. Donc pour valoriser les déchets plastiques dans cette perspective d'économie circulaire, il y a différentes façons de le faire. Alors je ne vais pas vous détailler effectivement tout ce que l'on peut faire, mais on peut typiquement faire de la pyrolyse, donc on va porter à haute température et brûler notre polymère pour extraire en fait des produits, des gaz en particulier. On peut gazifier, on peut les incinérer. On peut faire beaucoup de reprocess, de reformulation mécanique. On a besoin, donc c'est des techniques émergentes, où on va utiliser les micro-ondes ou des plasmas pour venir aider cette recyclabilité des milieux particuliers comme les milieux supercritiques. On a besoin de compatibiliser, ça c'est quelque chose dont je vais vous parler un petit peu plus, parce que quand on dit le plastique ou les plastiques, on a parfois l'impression, en tout cas dans l'image de la société, que ça n'est qu'une matière. En fait, c'est pas une matière, chaque plastique est différent. Et tous ces plastiques sont incompatibles les uns avec les autres. C'est comme mélanger du cuivre et du fer, c'est pas la même chose, d'accord ? On n'a pas les mêmes propriétés, on n'a pas les mêmes caractéristiques. Et donc sur certains de ces aspects-là, je vous montrerai rapidement une des solutions. Donc La valorisation des espèces plastiques, on peut le voir avec différentes perspectives. Donc, bien sûr, il faut d'abord récupérer tous ces déchets. Et là, on peut récupérer, broyer, tamiser un mélange de matières qu'on va retrouver ici. Et puis, si on regarde ici, par exemple, le polypropylène, par pyrolyse, eh bien, on va pouvoir former tous ces précurseurs qui, après, eh bien, une décomposition catalytique et interaction avec certains métaux peuvent nous permettre de produire, donc avec une catalyse, une réduction particulière, différents composés qui peuvent être des composés qu'on va réintégrer dans une chaîne de production chimique. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui sont déjà utilisées, même si bien sûr les rendements sont améliorés. On peut faire une chimie que vous voyez ici, où on va casser des liaisons, et l'enjeu, c'est vraiment de casser des liaisons carbone-carbone. On y reviendra, et Daniel y reviendra de façon plus approfondie, qui est vraiment l'enjeu. Et je vous montrerai qu'on peut aujourd'hui casser et recycler des liaisons qui sont plus « fragiles », entre guillemets, de façon plus efficace. Mais l'idée étant, eh bien, à partir de ces déchets, de créer des composés chimiques, petites molécules, et ces composés chimiques, petites molécules, éventuellement de les intégrer avec des composés pétrosourcés, des composés biosourcés, pour recréer des matières à plus haute valeur ajoutée. Et ces matières à plus haute valeur ajoutée, on peut les retrouver eh bien, dans les parfums, dans la nourriture pour animaux, dans la pharmacie ou dans d'autres polymères. Bien sûr, on peut recréer d'autres polymères. Donc ça, on s'inscrit de plus en plus dans cette démarche-là. Mais cette démarche-là, effectivement, nécessite très souvent beaucoup d'énergie, en fait, pour atteindre, et bien sûr, il faut récupérer, trier, et de l'énergie pour reproduire, en fait, une matière qui va être une matière utile. Donc, si on veut le faire, effectivement, on peut imaginer qu'il faut que cette valeur, que cette matière qu'on va créer soit à plus haute valeur ajoutée pour pouvoir justifier, effectivement, tout le coût associé à cette production. Mais c'est des choses qui sont en plein développement, bien sûr, avec cette approche hein, de développer une économie circulaire. Alors, je l'ai évoqué, mélanger des polymères et recycler des plastiques, c'est pas récupérer dans la poubelle, souvent jaune, où on met tous nos déchets plastiques. C'est pas tout récupérer et tout mélanger n'importe comment, parce que ça marche pas. Et on a très souvent, effectivement, besoin de rajouter des agents de compatibilisants. Donc ça, c'est une façon de le faire. Et on peut voir ici, sur cet exemple, qu'on peut compatibiliser avec des copolymères à bloc, donc qui sont finalement des tensioactifs qui vont se mettre entre les interfaces. Et vous pouvez voir ici, donc c'est un exemple de polyéthylène. Ça, c'est du polypropylène, donc deux polymères qui sont finalement assez proches hein, en termes de nature chimique et en termes de propriétés. Mais on voit que si on les mélange avec un certain ratio, hein, on va perdre les propriétés. Et ces propriétés, ce sont des propriétés où on vient faire une éprouvette mécanique et en gros, on mesure la force ici par rapport à la déformation. Donc on tire dessus et on mesure la force associée. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce mélange eh bien, perd complètement ses propriétés, on n'est même pas là. Et si on rajoute effectivement des agents de compatibilisation, ici, avec quelques pourcentages, enfin en fonction du pourcentage, on peut retrouver des propriétés qui vont être intermédiaires entre les propriétés des matériaux initiaux. Donc on a besoin, on peut mélanger, on peut mécaniquement reformuler, mais on a besoin effectivement de rajouter certains éléments à plus haute valeur ajoutée, hein, des polymères spécifiques, de façon à retrouver la bonne propriété derrière. Et forcément, ça a des limitations. Hein, forcément, toutes ces approches-là ont des limitations. Et c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas une solution, en fait, il y a plusieurs solutions, et en fonction du type de matière et en fonction du type de méthode de recyclage, effectivement, eh bien, il faut adapter ces différentes solutions. Et ça n'est qu'en utilisant toutes ces solutions, en fait, qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Alors, on peut se poser la question, effectivement, comment la nature fait ? Parce que je voulais évoquer, la nature crée des polymères, les polysaccharides, la cellulose, parmi les plus abondants, les protéines, dont on a déjà beaucoup parlé. Hein. La nature crée ces polymères et puis sait les recycler et les réutiliser. Et si on regarde d'un peu plus près, si on regarde ici les cycles, parce qu'en fait, tout ça s'inscrit dans un cycle de la vie, entre guillemets. Donc on va pouvoir produire des matières végétales, c'est ce que la nature fait, donc grâce à la photosynthèse, grâce bien sûr à la présence d'eau. On capte le CO2, donc si en plus c'est très utile. Et puis ces végétaux, une fois qu'ils vont être détruits, donc ça peut être la feuille des arbres hein, ou les végétaux qui pourrissent, eh bien vont servir de nutriments. Donc là on a toute une zoologie, on va dire, de ce qu'on appelle la pédofaune, qui va servir eh bien, à dégrader et réutiliser en fait, ces différentes matières organiques, avec un processus donc, d'humification, donc c'est l'humus qu'on va retrouver. Et là, on a un patrimoine et une multitude en fait, d'enzymes et de bactéries qui vont réaliser tout ce processus, en fait. Et quelque part, on va retrouver ici des nutriments de base qui vont servir par les racines à nourrir la plante ou à nourrir d'autres plantes. Donc c'est un cycle, et on retrouve comme ça des cycles, différents cycles. Donc on a le cycle du carbone, qu'on connaît, dont on parle beaucoup, mais aussi le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, le cycle de tout un tas d'éléments organiques ou inorganiques d'ailleurs. Donc la nature sait faire ce travail-là. Et l'idée, c'est pourquoi pas nous, en fait. Et pourquoi pas nous? Et bien sûr, il faut le faire de façon efficace. Donc ça s'inscrit aussi dans une démarche qu'on appelle la bioremédiation, ou le concept de bioremédiation, qui, elle, sert à utiliser, enfin, qui a pour but d'utiliser, en fait, des organismes vivants pour la dépollution. Donc même des choses, enfin, dire, qui sont induites par l'homme, une pollution qui peut être induite par l'homme, eh bien, peut être résolue, entre guillemets, par une dépollution d'origine végétale, dans ce cas-là, donc d'organismes vivants, qui vont s'adapter à leur milieu. Donc c'est vraiment un phénomène d'adaptation et de darwinisme. Donc ça, c'est très prometteur, par exemple, pour les stations d'épuration. On va retrouver certaines enzymes, effectivement, qui vont être capables de dégrader dans les stations d'épuration tout ce qu'on peut produire, et pas que des matières qui sont d'origine biologique. Mais aussi, par exemple, c'est très prometteur dans les sols, ce qu'on appelle la phytorémédiation. Et ici, c'est des choses qu'on va retrouver, par exemple, avec des plantes. Donc c'est des choses qui sont assez connues, hein, dont Claude Grison, qui est au CNRS, est une spécialiste, pour extraire des substances toxiques des sols grâce à des plantes. Donc c'est ce qu'on appelle des plantes hyperaccumulatrices. C'est des plantes qui vont être capables de survivre et même de se développer, en fait, dans des sols qui sont très pollués, en particulier par des métaux lourds, donc qui sont très toxiques. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, hein, où des arbres, eh bien, sont capables d'absorber le nickel, et la conséquence, c'est que leur sève devient bleue, parce qu'elle absorbe vraiment complètement le nickel. Et bien sûr, le nickel est produit dans les mines qu'on va retrouver en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pas quelque chose qui est naturel, entre guillemets, mais la nature s'adapte, et sait s'adapter, en fait, pour venir corriger, quelque part, ce dérèglement. Ce n'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles solutions de recyclage qui peuvent exister dans la nature et s'inspirer quelque part de ce que la nature peut faire et est une des sources et une des possibilités que l'on peut envisager. Et parmi un exemple, enfin parmi les exemples qu'on peut retrouver, il y a cet exemple qui est assez fameux, entre guillemets, alors même s'il est assez controversé, c'est ce ver, en fait, qui est un ver de cire. Et ce ver de cire, lui, est bien capable de se nourrir de plastique. Alors, il est capable de se nourrir de plastique parce que c'est un ver qui déjà était capable de consommer la cire, donc dans certains environnements. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on prend le polymère, donc qui est un des polymères les plus produits, donc c'est le polyéthylène ici, et bien en seulement 24 heures, il peut le digérer, donc il peut digérer 1 à 2 cm, un film d'1 à 2 cm de long. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, une colonie ici de 60 larves peut digérer à peu près 60 cm carrés. Donc ça veut dire à peu près un petit sachet de bonbons. Donc ce n'est pas la solution qui va nous permettre de dégrader tout le polyéthylène qu'on produit, qui est en millions de tonnes, d'accord? Donc c'est certainement pas la solution qui va résoudre le problème. Mais toutefois, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces larves de papillons, eh bien, ont su s'adapter et même peuvent survivre, je crois que c'est ce que je vais vous raconter ici, en fait, survivre avec uniquement du polyéthylène comme élément de nutrition pendant plus d'une année. Donc il y a ce phénomène d'adaptation, et parmi les raisons, en fait, qui ont conduit à ce phénomène d'adaptation, c'est que dans leur bactéries intestinales, eh bien, certaines enzymes intestinales qui sont développées et qui sont devenues, en fait, spécifiques pour l'ingestion et la digestion de ce polyéthylène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en isolant et en cultivant, pardon, des bactéries intestinales avec le polyéthylène, eh bien, on peut quelque part adapter ces micro-organismes et développer des micro-organismes qui vont être capables de venir dégrader ces matières particulières, même si elles n'étaient pas spécifiquement capables de le faire dans leur patrimoine génétique, j'ai envie de dire, initial. Donc il y a ce phénomène d'adaptation que la nature est capable de créer. Et il y a effectivement, on peut se dire, il y a certainement des enzymes. Alors des enzymes, soit que par adaptation naturelle, ou soit des enzymes qu'on va créer de façon synthétique en créant des mutants, qui sont capables de dégrader certaines liaisons qu'on va retrouver au niveau des plastiques, au niveau de certains polymères. Et en fait, dans cette idée-là, hein, c'est l'exemple, finalement, d'une société qui s'appelle Carbios, qui est une société française basée à Clermont-Ferrand. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, en développant, et c'est donc un premier article ici qui a été publié en 2020, une première technologie qui a été développée en 2020, pour recycler le PET. Donc le PET, c'est le polyéthylène téréphtalate, qui a cette structure chimique, et qu'on utilise énormément dans les emballages, en particulier dans les bouteilles. Donc les bouteilles en plastique hein, sont, pour la plupart d'entre elles, faites en PET. Alors le PET, on sait quelque part le réutiliser. Donc, typiquement, on peut refaire des fibres à partir du PET, à partir des bouteilles. On fait les vestes polaires, typiquement. C'est des polyéthylène téréphtalate pour une grande part. En tout cas, on sait le faire. Mais ceci étant, c'est une réutilisation de la même matière. Et donc, on peut réutiliser un certain nombre de fois la même matière, mais pas à l'infini, parce qu'on perd en propriété. C'est le problème du recyclage. C'est qu'en général, on perd les propriétés progressivement. Donc, on ne retrouve pas une matière qui a des propriétés équivalentes. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé, effectivement, et screené toute une batterie d'enzymes. Ils ont stabilisé ces enzymes et fait des mutants pour que ces enzymes soient stables à haute température, pour pouvoir les formuler dans le polymère, et ensuite venir les activer pour dégrader ce polymère. Alors, ce polymère, c'est, sans dévaloriser le travail, qui est spectaculaire, hein, c'est un polymère qui est difficile à dégrader, mais c'est quand même un polyester. Donc un polyester, ce n'est pas non plus le polymère le plus compliqué à dégrader. Alors, ils ont appliqué la même méthodologie sur un autre polymère qui est aussi un polyester, qui est le PLA, mais qui est utilisé effectivement à des grandes quantités, et qui, lui, en fait, ne se dégrade pas dans les composts en particulier. Et ils ont développé la même approche, publiée ici l'année dernière, pour intégrer à nouveau dans le PLA des enzymes qui vont être capables d'activer cette dégradation enzymatique de façon spécifique. Et là, à nouveau, toute l'idée, la beauté, hein, c'est d'avoir un screening, qui est un screening un peu haut débit, de façon à trouver les enzymes qui vont être efficaces pour dégrader ce polymère, mais en même temps, qui vont être capables d'être suffisamment stables pour être formulés et pour être processé dans un matériau où on va utiliser des conditions parfois de haute température. Et je vais juste vous montrer cette petite vidéo qui explique un petit peu ce qu'ils font, de façon... Il faut que je monte le son.
Carbios développe des solutions innovantes
pour
repenser le cycle de vie des plastiques et des textiles. C'est à Clermont-Ferrand que Carbios produit sa solution pour la biodégradation du PLA, Carbios Active. Carbios Active est une enzyme encapsulée qui rend les emballages PLA compostables en quelques semaines, à température ambiante et sans résidus toxiques ni microplastiques. Elle est directement intégrée sous la forme de master batch sur les lignes industrielles des fabricants d'emballages PLA. Développée par Carbios, cette enzyme est fabriquée par notre partenaire Novonesis, puis encapsulée en master batch sur la ligne de production Carbios. Dans un premier temps, les ingrédients de transformation sont dosés, injectés et mélangés dans la ligne d'extrusion. À la sortie de cette ligne, le jonc formé est coupé, refroidi à l'eau, puis centrifugé. Il est ensuite séché avant d'être ensaché. Cette ligne industrielle produit 2500 tonnes de Carbios actifs par an, soit l'équivalent de 50 000 tonnes de PLA enzymés. Carbios Active permet de rendre les emballages PLA certifiables Home Compost. Carbios offre ainsi une solution concrète et durable au défi de la gestion des déchets plastiques.
Voilà, donc j'ai absolument aucune part dans la société, c'est purement désintéressé, mais c'est une technologie effectivement développée en France qui est assez remarquable, parce que le PLA n'est pas compostable. En fait, c'est un polymère qui est beaucoup utilisé dans l'emballage, mais qui n'est pas compostable en tant que tel, même si c'est un polyester, même si on peut penser qu'il va s'hydrolyser très facilement. Donc c'est une avancée majeure en fait dans ce domaine-là, et vous voyez qu'on peut transférer même à une échelle industrielle hein, sur des productions qui sont à très grande échelle. Donc des solutions commencent à exister, et c'est des solutions qui à nouveau sont inspirées de ce que le vivant est capable de faire, en tout cas en utilisant des matières vivantes que peuvent être ces enzymes. Alors, il y a un autre exemple qui est assez intéressant, c'est l'exemple de Dionimer, qui est un petit peu dans cette mouvance-là. Dionimer, c'est une jeune pousse bordelaise, en fait. C'est trois jeunes étudiants de l'école d'ingénieurs où j'enseigne qui ont développé cette société et qui, eux, en fait, à nouveau, ont l'idée d'utiliser des déchets. Je vais revenir, en fait, sur cette notion d'utiliser des déchets. Donc là, ce qu'ils utilisent, c'est, alors vous voyez très mal ici, mais c'est des déchets alimentaires qui peuvent être complètement réutilisés. Donc, il y a toute une étape en fait de récupérer et de collecter en fait tous ces déchets alimentaires. Ils sont en train de travailler avec des cuisines et les grandes cuisines que l'on va retrouver dans les cantines en particulier. Et ce qu'ils ont développé, c'est une enzyme spécifique hein, qui va être capable de produire un polymère à partir de ces différents déchets. Et les polymères qui vont produire par donc un processus de fermentation, donc c'est une fermentation bactérienne, sont ce qu'on appelle les PHB, donc les polyhydroxybutyrates, qui sont ces polymères que l'on va retrouver avec cette structure chimique ici, dont le nombre de carbone et le substituant ici peut changer, et qui peut finalement donner lieu à des polymères qui vont être à la fois très rigides ou très déformables en fonction de leurs caractéristiques. Donc là, ils sont en train d'optimiser, de développer à plus grande échelle ce genre d'approche, mais c'est à nouveau en utilisant des outils biotechnologiques, hein, que quelque part on peut trouver des solutions. Donc là, c'est pas dégrader des polymères existants ou que l'on va produire, qui sont biosourcés ou pétrosourcés, mais c'est vraiment produire de nouveaux polymères à partir de déchets. Et ça, c'est une autre approche effectivement qu'on peut avoir pour s'affranchir de l'utilisation de l'origine pétrosourcée des polymères que l'on peut avoir. Alors, les polymères les plus abondants dans la nature, c'est des exemples que je vous ai évoqués ici, hein, et si on regarde dans la nature, et comment on va se rapprocher un peu plus près de ce que peut faire la nature, eh bien, les polymères les plus abondants qu'on va retrouver dans la nature, je l'ai évoqué, ce sont les polysaccharides en général, la cellulose en particulier, la lignine, qu'on va retrouver dans les arbres, et les protéines, qu'on retrouve à peu près partout. Donc ça, c'est parmi les polymères qu'on va retrouver de façon la plus abondante. Et donc, comme je vous ai parlé beaucoup de protéines, on peut aussi regarder quelque part comment est-ce qu'on peut recycler les plastiques et de la même façon que l'on est capable de le faire avec les protéines. Si on regarde effectivement comment la nature le fait, donc la protéine est produite, si on regarde au niveau cellulaire, dans nos cellules, dans les cellules eucaryotes, on produit des protéines, mais on va aussi les réutiliser, les recycler. Donc l'élément de base d'une protéine, eh bien, c'est un peptide, et ce peptide va être lié par une liaison peptidique, qui est cette liaison COOH, qu'on va pouvoir dégrader, recycler par certains types d'enzymes. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui se fait dans la nature de façon complètement routinière. Et donc on produit ces protéines, et lorsqu'elles sont abîmées, lorsqu'elles sont mal produites, donc une protéine mal repliée par exemple, il y a tout un mécanisme qui est mis en œuvre pour réutiliser, recycler ces protéines. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'autophagie. Donc l'autophagie, ça veut dire en gros, en grec, c'est se manger soi-même. Donc finalement, on produit et on mange. Ce qu'on produit sert aussi de nutriments pour reproduire autre chose. Si on regarde la façon de le faire, donc on peut le voir de façon circulaire, avec une économie circulaire, si on regarde au niveau de la cellule de ce qui peut se passer, eh bien on va retrouver par exemple des débris membranaires. Donc ça va être des protéines qui sont soit à la membrane, soit à l'intérieur du cytoplasme de la cellule. Ces débris vont être transportés, collectés. Donc il y a tout un mécanisme biologique qui est mis en œuvre pour repérer en fait ces mauvaises protéines, entre guillemets, pour les collecter, pour les encapsuler dans ce qu'on appelle un endosome, les faire fusionner avec ce qu'on appelle un lysosome, c'est le réservoir enzymatique. Et lorsqu'on a cette fusion, eh bien, on va avoir une activation des enzymes de dégradation, et il y a un cocktail d'enzymes de dégradation qui vont venir dégrader ces polymères, donc ces protéines, en aminoacides, et ces aminoacides sont retrouvés dans le compartiment intracellulaire et vont servir en fait, via les ribosomes, rappelez, qui produisent en fait ces protéines, pour produire d'autres protéines. C'est-à-dire qu'une protéine qui était une protéine membranaire va être dégradée en aminoacides et va être reproduite en une autre protéine qui va avoir un autre rôle fonctionnel. D'accord ? On ne va pas forcément utiliser une matière ou utiliser un polymère, reproduire à l'identique le même polymère. On peut très bien, il peut servir de ressource pour produire autre chose. Donc ça, c'est ce que fait la nature. Ce que fait la nature tous les jours. D'accord ? Et de façon à nouveau cyclisée, complètement automatisée. Alors, elle le fait de façon très subtile, je ne vais pas rentrer dans ces subtilités là avec vous, on n'aura absolument pas le temps, mais ce n'est pas non plus juste récupérer et recycler, mais le recyclage, en fait, endocytaire, il est fait de façon vraiment très, très subtile, et on pensait pendant très longtemps que c'était un mécanisme complètement passif de recyclage, mais en fait, il est actif, il y a vraiment un tri qui est créé, et quelque part, ce tri de recyclage se fait avec deux voies distinctes, hein. Une voie où on va recycler et reproduire la même chose, et une voie où on va recycler, dégrader et reproduire autre chose. Donc la nature fait ça de façon très 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 sélective et très sophistiquée. Le plus important, c'est effectivement de comprendre qu'effectivement ce cycle-là peut être effectivement répliqué, dès lors qu'on a le bon cocktail enzymatique pour dégrader en fait ces différents polymères. Si la nature ne fait pas bien ça, j'ai oublié de vous préciser, mais si cette autophagie en fait ne se fait pas bien, on a une dérégulation et c'est là où les pathologies arrivent. Donc c'est là où, par exemple, si on ne dégrade pas bien les protéines tau qu'on va retrouver dans les maladies neurodégénératives, on va se retrouver avec des pathologies neurodégénératives. D'accord ? Parce qu'on n'a pas identifié et quelque part dégradé ces protéines particulières. Alors, sur cette base-là, en fait, il y a quelques exemples récents et que je qualifierais, alors c'est purement personnel comme qualification emblématique, que je trouve vraiment remarquable, qui ouvrent des perspectives pour l'avenir qui sont vraiment intéressantes. Alors vous le verrez, je vais vous montrer deux grands exemples en gros. Hein, soit utiliser des protéines pour reformuler et faire des matériaux à plus de valeur ajoutée, soit complètement s'inscrire dans cette dynamique-là. Donc c'est des choses très récentes. Aujourd'hui, d'un point de vue rentabilité, on n'est pas là, mais d'un point de vue conceptuel, c'est des choses qui je trouve, ouvrent des perspectives absolument, absolument éblouissantes. Donc parmi les exemples et les modèles dont je voulais vous parler, parmi ces exemples de protéines, eh bien, on va retrouver la bêta-lactoglobuline ou le lactosérum. Donc c'est un exemple sur le lactosérum. Ce sont des travaux qui sont issus du groupe de Raphaël Mezenga à l'ETH à Zurich. Qui utilisent depuis très longtemps, enfin qui recyclent en fait ces protéines. Donc c'est des protéines qui sont des déchets alimentaires, hein, qui ne sont pas utilisés dans l'industrie laitière en particulier. Donc en Suisse, il y a beaucoup de vaches, il y a beaucoup de lait, donc il y a beaucoup de déchets potentiellement utilisables. C'est le petit lait qui n'est pas toujours utilisé. Et après un traitement chimique, donc traitement avec un pH donné, une certaine température, et après un processus subtil qu'il a pu développer, il peut dénaturer cette protéine et la reformuler pour former ce qu'on appelle des fibres d'amyloïdes. Et en fait, ces fibres d'amyloïdes vont être capables de venir s'interconnecter et avoir des propriétés de plastification. Et ce qui a pu être réalisé ici, donc en prenant ce lactosérum, c'est des films plastiques qui vont avoir des propriétés. Alors, ce n'est pas que ce polymère, c'est ce polymère qui va être modifié avec un plastifiant. En rajoutant un peu d'un autre polymère qui est le PVA ou la méthylcellulose, donc un polymère lui-même qui va être partiellement biosourcé, et bien ce qu'il a pu faire, c'est des films qui ont des propriétés mécaniques comparables, voire supérieures, aux films plastiques qui sont utilisés. Donc si on regarde ici les modules Young qui reflètent la propriété mécanique en fonction de l'élongation, et bien on va retrouver ces deux types de films que vous avez là, donc ils sont comparables. Typiquement ici au polyéthylène, qui est un des films d'emballage qui est les plus utilisés pour faire des sacs. Et puis si on regarde la rigidité en fait de ces polymères, vous voyez qu'on peut retrouver des rigidités qui sont supérieures à la cellulose ou au PLA dont on a déjà parlé. Donc là, c'est à nouveau utiliser une ressource qui est aujourd'hui un déchet, donc qui n'est pas utilisée, avec un processus adapté pour le réintégrer dans une chaîne de production pour réaliser des polymères qui vont être ici biosourcés, biocompatibles et puis qui sont biodégradables puisque c'est aussi bien sûr l'objectif important. Une autre façon d'utiliser ces fibres d'amyloïdes, donc là c'est à nouveau c'est ces mêmes fibrilles hein, qui vont pouvoir être utilisées pour former des films et pourquoi utiliser cette matière dans la filtration sélective et là l'objectif c'est de faire de la filtration sélective pour éliminer des ions lourds, des ions métalliques, c'est que en fait en regardant d'un point de vue pathologique et en regardant ce qui se passe au niveau médical, ces fibres d'amyloïdes qui sont responsables de maladies neurodégénératives que j'ai évoquées précédemment, eh bien, ce qui a été observé, c'est que en présence de certains ions, en particulier des ions zinc en plus haute concentration, eh bien, cette fibrillation était plus importante. Quelque part, ça traduit le fait que ces fibres ont une capacité d'interaction ionique qui est assez forte. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé en fait ces fibres dénaturées, donc bêta-lactoglobuline, dénaturées pour former ces fibres d'amyloïdes, et fait des films qu'ils ont intégrés donc, sur un substrat de carbone, de carbone, et puis passé tout simplement des solutions aqueuses qui contiennent des ions métalliques, qui sont des ions métalliques toxiques qu'on va retrouver dans les eaux, en fait, hein, qui sont utiles pour la dépollution d'eau. Et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'en fonction, donc il y a différents ions qui peuvent être utilisés, donc des ions d'or, de mercure, de plomb ou de palladium. Et ce qu'on voit, c'est que la teneur, donc c'est en échelle logarithmique ici, hein, donc c'est après une filtration, vous voyez qu'on a une teneur en ions qui est très largement diminuée, en particulier pour le palladium ici. lorsqu'on fait une seule filtration en fait, sur ces membranes de filtration. Et si vous, alors c'est une façon de le revoir ici sur le mercure. Hein, vous avez des taux de mercure ici aqueux qui peuvent être très importants avant filtration, et après filtration, on revient à des taux qui sont à des taux acceptables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser ce genre de, à nouveau, de matières, qui sont à nouveau des déchets, hein, pour de la filtration d'eau à très bas coût, parce que finalement le procédé est extrêmement peu coûteux, et qui peut être utilisé un petit peu partout. Alors ils sont même allés plus loin, parce que en réduisant l'or, en captant les ions d'or qu'on peut retrouver, et en le réduisant, on peut faire des nanoparticules d'or. Ce qu'ils ont montré, c'est que ces nanoparticules d'or avaient des performances catalytiques équivalentes en fait aux nanoparticules d'or faites, on va dire, de façon séparée, ou même pouvoir former des films d'or. Donc, ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'ils pouvaient transformer une pollution en une matière, on va dire, à très haute valeur ajoutée. Bon, ça, c'est un petit peu de la vente, entre guillemets, un petit peu survendue. Mais ces travaux-là sont extrêmement importants, et quelque part montrent un peu tout le potentiel que l'on peut réaliser en comprenant ce qui se passe au niveau biologique, en prenant un déchet, en le reformulant d'une façon un petit peu sioux, et en trouvant une application effectivement qui peut être très intéressante. Dans le même esprit, ils se sont intéressés à recycler, à réutiliser les plumes de poulet. Donc, énorme production de poulet. Les plumes, on ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est un déchet, à nouveau, qui n'est pas du tout utilisé. Et en récupérant ces déchets, donc, il y a énormément de membranes de kératine, en fait, qui sont à base d'amyloïdes, elles aussi. Et ce qu'ils ont pu réaliser, en fait, ce sont des films qui vont s'intégrer, en fait, dans une membrane. Donc, c'est des fibres, c'est une membrane d'amyloïdes, ici, principalement, et qui va remplacer les membranes qu'on va retrouver dans les piles à combustible, qui remplace le nafion, typiquement qui est un polymère qui est extrêmement toxique, entre guillemets, à base de dérivés fluorés. Et là, le profil environnemental est bien meilleur, bien sûr. La durabilité est radicalement différente. Bien évidemment, ces technologies-là, d'un point de vue coût, ce que l'on peut voir, c'est que le coût estimé, ici, il est relativement intéressant, puisque le coût estimé de la production, donc de la récupération des déchets, jusqu'à tout le processus en fait, de dénaturation et de formation de films, ils l'ont estimé à peu près à de l'ordre de $850 par mètre carré, ce qui est à peu près deux fois inférieur à celui du nafion aujourd'hui. La question clé ici, c'est la durabilité. Le nafion, c'est très stable, c'est très durable. La durabilité de ces films-là n'est pas encore démontrée. Et bien évidemment, c'est une solution potentielle, mais il faut rester très prudent. Sinon, tout serait déjà remplacé avec ce genre de polymère. Mais à nouveau, des solutions technologiques existent, hein, pour remplacer des matières et substituer des matières. Et là, on est vraiment dans le surcyclage, dans le upcycling. On prend un déchet qui ne vaut rien, qui n'est pas utilisé, et même qui coûte cher, entre guillemets. Et ce déchet, on le transforme en quelque chose qui a une haute valeur ajoutée. Alors, il y a un autre procédé, et qui est un procédé, je trouve, encore plus innovant, qui est vraiment basé sur le fonctionnement de la cellule, ou le fonctionnement biologique. C'est de prendre une protéine, de la transformer pour recréer une autre protéine, qui ne va pas forcément être la même. Et ça, ce sont des travaux très récents, développés dans l'équipe de Stellacci à l'EPFL, donc à Lausanne, en Suisse, toujours. Un procédé qu'il a appelé le procédé NACRE, donc qui veut dire Nature Inspired Circular Economy Recycling. Donc c'est vraiment utiliser un recyclage et une économie circulaire inspirée de la nature. Et le concept, il est simple, il est décrit ici. Vous prenez un mélange de protéines, vous allez dépolymériser ces protéines, recréer donc les aminoacides. Et ces aminoacides que vous avez ici déconstruits à partir de la protéine, vous allez resynthétiser une autre protéine, donc une protéine 4 qui n'est pas la même, qui n'est pas forcément la même, qui peut être la même mais qui n'est pas forcément la même, et vous pouvez faire ça en théorie à l'infini. D'accord ? Je dis bien en théorie à l'infini. Parce que c'est une source qui est effectivement une source inépuisable. Alors, ils ont démontré le concept, et ce concept a été démontré donc sur différentes protéines. Donc, toute la difficulté, c'est de pouvoir dégrader ces protéines jusqu'à l'aminoacide individuel. Parce que en fait, les enzymes ne dégradent pas tout et pas tout de la même façon. Donc, ils ont pu démontrer ici sur une protéine modèle, donc sur différentes protéines, ici sur la fibroïne, qui est la protéine de la soie en fait, qui peuvent dégrader ces protéines. Donc, on retrouve toute la collection d'aminoacides. Donc, ça, c'est les références de la protéine naturelle, et c'est ce qu'on va retrouver au niveau de recyclé. Donc, on retrouve tous les aminoacides. Donc, ils peuvent mélanger en fait plusieurs types de protéines pour retrouver une composition en aminoacides plus riche. Parce qu'en fonction de la protéine qu'on veut reconstruire, on va avoir des concentrations de ces différents aminoacides. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'ils ont recyclé en fait, la protéine de soie en une autre protéine qu'on appelle la GFP, qui est la protéine verte fluorescente, la Green Fluorescent Protein. Pourquoi ? Parce que ça peut se voir, parce qu'elle est fluorescente assez facilement, cette protéine, parce qu'elle a cette propriété de fluorescence. Et ce qu'on peut voir, c'est les propriétés de fluorescence de la protéine native par rapport à celle qui est recyclée, qui sont quasi équivalentes. Ici, c'est le contrôle négatif, hein, quand il n'y a pas l'outil de production. Et l'outil de production, en fait, c'est un cocktail, ce qu'on appelle des TXTL, c'est un cocktail qui est extrait en fait, du milieu cellulaire. On va retrouver en fait, toutes les propriétés, en particulier le ribosome dont on a besoin pour recréer ces protéines. Donc, c'est une machinerie synthétique qui mime ce qu'on retrouve au niveau biologique pour venir reproduire ces protéines d'intérêt en mettant l'ARN pour coder la protéine que l'on veut resynthétiser. Exactement ce qu'on a évoqué, hein, où c'est l'ARN qui code via le ribosome la synthèse des protéines dans le milieu biologique. Donc ça, on peut le faire d'un point de vue complètement artificiel. D'accord ? Alors, ils sont allés un petit peu plus loin en montrant qu'on pouvait créer un matériau et là, créer quelque chose en plus grande quantité, parce que la limitation aujourd'hui, c'est les quantités en fait, qu'on est capable de produire. Donc toujours avec cette même approche, hein, ça c'est un des travaux qui datent de l'an dernier, qui sont assez récents, où ils ont mélangé en fait, ces trois types de protéines de façon à avoir une source en aminoacides qui est importante, et puis recréer en fait, une autre protéine, qui est un mutant en fait, de la GFP, de cette même protéine, mais qui peut être réticulée cette fois-ci. Et ils ont fait, en fait un hydrogel à partir de cette protéine, et pour faire donc, ce que vous voyez ici, hein, qui a des propriétés mécaniques qui ont été mesurées, mais ce qui est important ici, eh bien, c'est qu'ils ont dû passer à une production qui est plus grande, et donc passer d'une production qui va de 500 ml à 10 litres. Donc on s'inscrit déjà dans des volumes de production qui sont plus importants, avec une concentration en mélange protéines qui va de 1 à 5 mg par ml. Donc on commence à produire une matière raisonnable. Alors, on est très très loin, hein, des millions de tonnes que l'on produit. Hein. Ils sont passés à un système d'expression biologique, en fait, c'est la biologie pour produire la protéine d'intérêt, à un lisa cellulaire, c'est-à-dire un mélange en fait, cellulaire, qu'on a tout simplement soniqué. Et là, on a une production qui a augmenté à peu près de 1 à 10 mg par litre de ferment, ce qui veut dire que le coût de la production, donc était de 19 000 euros pour la protéine d'avant, est passé à 1 500 euros par milligramme. Donc ça reste très très cher. Très très à très très haute valeur ajoutée. Enfin, il faut qu'il y ait une très très haute valeur ajoutée. C'est pas aujourd'hui envisageable d'un point de vue transfert industriel, mais vous voyez que c'est une approche en tout cas qui peut être développée et qui pourra être développée parce que c'est des outils de fermentation qui sont finalement relativement simples et qui sont déjà utilisés par l'industrie. Et après, bien sûr, c'est une question de volonté. Mais en tout cas, c'est un concept très nouveau, je trouve très récent et qui est complètement inspiré de ce que fait le vivant. Et c'est certainement aussi en s'inscrivant dans ces raisonnements-là et dans ces démarches-là qu'on pourra trouver des solutions à une partie du problème, bien sûr, à pas tous les problèmes que l'on peut avoir. Mais en tout cas, je trouve que c'est des exemples qui étaient assez révolutionnaires dans le domaine. Donc je vais pas être plus long parce que je veux laisser du temps à mes collègues pour discuter et puis à mes collègues pour vous présenter leurs travaux dans cette dynamique-là. Les messages vraiment importants, c'est, bien sûr, on a cette conscience sociétale, hein, c'est que la production mondiale, la population pardon, mondiale ne va faire qu'augmenter. Hein, il va atteindre, je vous ai montré tout à l'heure, c'était 11 milliards en 2070, bon là c'est 10 milliards en 2050, ce ne sont que des prédictions, mais en tout cas, elle ne fait qu'augmenter. On a un défi majeur, et un défi majeur, eh bien, c'est quelque part qui est des plus redoutables, c'est si on s'inscrit dans cette problématique de durabilité, c'est que ce qu'on produit, effectivement, doit être durable, parce qu'on ne peut pas produire à l'infini, et on ne peut pas extraire à l'infini. Et donc, quelque part, le traitement de tous les produits plastiques est un problème clé et sera un problème clé dans l'avenir, parce qu'en fait, on ne pourra pas s'en passer, on en a besoin, et les pays en développement en ont besoin aussi. Si on regarde un peu les chiffres, on estime à 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits jusqu'en 2021, donc c'est du début de la production des plastiques, à peu près 70 ans jusqu'à maintenant. Et ce qu'on voit, c'est qu'à peu près, entre 4 et 12 millions de tonnes en fait, sont de matières plastiques sont rejetées dans les océans par an, ce qui est c'est complètement fou. Donc effectivement, il faut absolument s'inscrire dans des problématiques où on doit arrêter ça, d'accord ? Mais le problème, c'est que comme la matière est peu coûteuse aujourd'hui dans les pays qui n'ont pas les moyens de recycler, parce que c'est la réalité, on ne recycle pas et c'est plus facile de jeter que de recycler, d'accord ? Parce que ça a un coût de recycler. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et quelque part, on peut la résoudre par la chimie, cette problématique. Alors on peut bien sûr recycler ou surcycler. Il y a beaucoup d'exemples. Les polymères et les plastiques, en particulier issus du pétrole. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. On a besoin de multiples solutions. Hein. Il y a des recyclages mécaniques, des recyclages physiques. Il faut brûler certains polymères. Donc il faut la multiplicité de solutions technologiques. On peut effectivement envisager une approche biosourcée. Et c'est une approche qui est développée depuis assez longtemps. Utiliser des polymères issus du végétal pour pouvoir s'inscrire dans une circularité. Sauf qu'on ne peut pas utiliser des terres agricoles pour produire des plastiques à l'infini. On a aussi besoin de se nourrir. Et donc on est en compétition parfois entre utiliser ces terres agricoles pour produire une matière qui a finalement une durée de vie relativement courte dans son utilisation. Et quelque part utiliser une terre agricole pour se nourrir. Donc il y a tout cet équilibre qui est à trouver, et plus la population augmente, plus cet équilibre devient fragile. Donc c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Et puis, à nouveau, de se baser sur une réflexion de ce que la nature est capable de faire. Hein, la nature sait produire tout un tas de polymères naturels, mais de façon durable. Et de façon complètement avec une économie, mais il n'y a pas d'économie en fait, dans ce cas-là, qui est complètement circulaire. Et à nouveau, revenir un peu à la base, revenir à ce que la nature est capable de faire est une source d'inspiration qui est très importante. C'est des choses qu'on a, un peu un fil rouge sur des choses qu'on a évoquées pendant tous ces cours, que je voulais rappeler ici. Et parmi eux, et parmi elles, eh bien, les protéines sont des polymères naturels qui sont constamment recyclés. La nature sait très bien faire ça. Et à nouveau, pourquoi pas nous ? Hein, et pourquoi pas nous ? Alors on voit aujourd'hui, on en est loin d'un point de vue des rentabilités, d'un point de vue des capacités de production. Mais à nouveau, ça n'est qu'un effort de développement et de réflexion. Et on peut très bien imaginer, en tout cas pour une partie des polymères, de s'inspirer de ces solutions-là. Voilà, moi je voulais arrêter, je voulais juste terminer ici, vous rappeler effectivement notre prochain rendez-vous, qui est le colloque du 6 juin. Donc je vous invite tous à venir. Vous avez un plateau de speakers qui sont de renom international, qui sont vraiment des chercheurs excellents dans leur domaine. On parlera plus de polymères pour des applications médicales, mais vous voyez, Raphaël Mezenga, dont je vous ai parlé, sera ici, vous présentera ses dernières avancées sur le sujet d'aujourd'hui en particulier. Et puis je voulais juste terminer en introduisant les deux speakers du jour. Christophe Chassigneux, donc, qui nous vient de l'Université du Mans, et qui va vous parler justement de l'utilisation de protéines pour des formulations technologiques un petit peu avancées. Et puis Daniel Taton, qui vous parlera du recyclage, de la prédiction, enfin, ou dans tout cas de la projection de développement de polymères aussi. On doit pouvoir faire des polymères aujourd'hui en codant de la dégradabilité. Donc c'est vraiment par la chimie et comment la chimie peut apporter des évolutions positives dans ce domaine-là. Et moi, je voulais terminer par vous remercier. Et puis, bien sûr, avec le plaisir d'échanger une dernière fois avec vous. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.